Savoie Motors, votre concessionnaire Suzuki, a le plaisir de vous présenter Clap, une émission d'Yves Crouzet et son équipe.
Salut les amis de Séquence FM, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va vous faire voyager, on va vous amener en bateau, on va parler de choses très 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 importantes. Et quel plaisir que d'accueillir ce soir Monsieur Philippe Ben-Simon, c'est ça ?
C'est bien ça.
Bonsoir Philippe, vous allez bien ?
Bonsoir.
Et puis à ses côtés, on a Virginie Duhamel, que vous connaissez maintenant en radio, ouais. Et qui nous a rejoint, puisque je crois qu'elle est également partie prenante de cette association.
Effectivement, je suis membre de l'association T2A, oui.
Parfait. Philippe, vous permettez que je vous appelle Philippe ?
Bien sûr.
Bien, Philippe, donc vous êtes navigateur ?
Oui, c'est exact.
C'est exact, mais avant vous étiez alpiniste.
Alpiniste, tout à fait.
Donc, ce qui veut dire que vous avez habité un peu la région de la Haute-Savoie.
10 ans à Chamonix, 4 ans à Annecy, quelques années à Sallanches également. Oui, la Haute-Savoie est un pays que je connais bien et que je connaissais déjà d'une part de ma carrière d'alpiniste. J'ai fait beaucoup de voies dans le massif du Mont-Blanc, bien sûr, et dans les Alpes également.
D'accord. Et vous habitez où maintenant ?
Dans le Jura.
Dans le Jura. Wow, c'est une belle région aussi.
Très belle région.
On dit que ça ressemble étrangement au Québec. C'est vrai, ça vous confirmez ?
Pas du tout.
Bon,
pas
d'accord.
Du tout.
Okay.
Je ne connais pas le Québec. Je suis un Québécois.
Non, c'est une très très belle région. Il est vrai que le Jura, c'est une région magnifique. C'est vrai. Bien, alors, on va parler justement de ce que vous êtes en train de monter, puisque vous allez faire une expédition scientifique et pédagogique, Tour des deux Amériques en solitaire. Et en voilier ?
Pas du tout. Non,
d'accord.
Vous n'êtes pas trompé d'émission. C'est un tour des deux Amériques solidaire et non pas solitaire.
Ah, pardon, j'ai cru que vous partiez tout seul, moi.
Pas du tout.
Pas du tout, d'accord. Donc, c'est une expédition solidaire.
Absolument.
On est bien d'accord. Alors, en quoi consiste justement cette expédition ?
Alors, à 20%, c'est de la recherche scientifique. Donc, accroître les connaissances dans le domaine de la biodiversité marine, dans le domaine des aspects physico-chimiques de l'océan, et également des liens de ces deux domaines avec le climat. Et à 80%, c'est une expédition pédagogique qui va former, informer, sensibiliser les élus locaux, le grand public et les jeunes scolarisés à deux nécessités impératives aujourd'hui. D'une part, sauver la biodiversité marine, qui est en très grand danger alors qu'elle nourrit un milliard d'hommes sur la planète.
Je crois qu'on va en parler tout au long de cette émission, parce qu'il est vrai que lorsqu'on regarde des images à la télé ou au cinéma, franchement, ça fait peur.
Tout à fait. Et le deuxième message, c'est lutter pour préserver le climat, tout au moins ralentir le réchauffement climatique, et apprenez à vivre avec, apprenez les solutions existantes pour pouvoir résister à la hausse inévitable des températures.
Parfait. Virginie va partir avec vous aussi ?
Oui, absolument.
D'accord. Ah, parfait, ça, je ne savais pas ça.
Alors, dans l'association, il y a un certain nombre de personnes. Et effectivement, on va faire des sauts de puce pour rejoindre l'expédition qui va avancer. On va se relayer, effectivement.
C'est sympathique,
et
ça.
Et chacun amène ses compétences.
D'accord. Merci de m'avoir préparé mes fiches et de me dire qu'il partait en solitaire, monsieur. Non, c'est pas vrai, c'est moi qui me suis trompé. Mille excuses. Bien, déjà, pourquoi ce tour des deux Amériques ? C'est quoi le périple ?
Alors, le périple consiste, comme son nom l'indique, à faire le tour des deux Amériques, avec passage en Arctique, en Antarctique, avec donc ces deux missions, recherche scientifique et puis volet pédagogique. On va aller de port en port, donc avec des étapes moyennes de 23,8 000, 43 km. Donc, c'est vraiment de la navigation côtière. On va passer en moyenne 4 heures à naviguer chaque jour, pour à peu près 10 à 12 heures de travail à terre. Donc c'est vraiment une expédition de communication vis-à-vis des gens qui vivent le long des côtes des deux Amériques. Le but, c'est de les inciter à modifier leur comportement de manière justement à préserver cette biodiversité marine et également à lutter contre ce réchauffement climatique. Alors, je voulais juste dire quelque chose à propos de cette expédition qui n'est pas solitaire.
On mais solidaire.
Voilà, on est aujourd'hui
merci.
88 membres dans le personnel navigant, dans l'équipage, 88 membres, dont 22 plongeurs, qu'allons nous relayer par période de 4 à 5 mois. Donc 4 à 5 mois, on embarque, on fait 4 à 5 mois à bord, on débarque. Donc voilà, c'est la durée moyenne d'un embarquement à bord, avec donc énormément de travail. Ce ne sera pas du tout la croisière s'amuse, mais c'est une expédition qui part pour travailler avec des buts très précis.
Parfait. Qui a eu l'idée, justement ?
À la base, c'est moi.
C'est vous.
Je ne m'en cache pas, je m'en suis très fier. Et puis petit à petit, ça a été moi plus un ami, Franck Pathé. Puis ensuite, il y a une compagne qui m'a rejoint. Puis ensuite, il y a d'autres amis, des amis d'amis. Et voilà, et petit à petit, donc, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui 88.
C'était un projet qui était difficile à vendre, ou en tout cas pour motiver les gens?
Oui, c'est un projet qui est difficile à vendre. Pourquoi ? Aujourd'hui, les gens n'ont pas conscience de toute l'horreur que représente le réchauffement climatique. L'ONU s'attend à 250 millions de personnes chassées de chez elles par le réchauffement climatique.
Dans une cinquantaine
2050.
D'années, c'est ça ?
Non, non, pas dans une cinquantaine d'années. Horizon 2050, dans 30 ans, c'est après-demain. C'est vraiment très, très proche. Et ça, c'est vraiment un très gros problème. Donc, cette absence de prise de conscience, notamment au niveau des élus, fait qu'il est très difficile de financer l'expédition. Voilà. C'est vraiment un projet qui a été difficile à lancer. Là, maintenant, il est sur les rails. Mais c'est vraiment un... Voilà. Les gens n'ont pas encore conscience de toute l'horreur. Si on a quelques minutes, je pourrais...
Oui, alors juste pour répondre à votre question, mais alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous ayez été motivé, justement, pour monter ce projet ? Donc, vous êtes navigateur, on le rappelle. Est-ce que c'est le fait, justement, d'aller en croisière, parfois, et de vous rendre compte que, eh bien, il fallait faire impérativement quelque chose pour les océans et les mers ?
Alors, d'une part, tous ceux qui ont l'habitude d'aller en mer et de pêcher se rendent compte qu'aujourd'hui, en Méditerranée, on arrive très difficilement à pêcher du poisson. Pour une raison simple, il n'y en a quasiment plus. Par contre, on pêche de plus en plus de plastique. Les derniers chiffres, ils ont été publiés aujourd'hui par WWF, montrent que chaque année, la France, uniquement la France, déverse en Méditerranée plus de 10 000 tonnes de plastique.
Attendez, vous êtes en train de nous dire que nous, Français, alors que tout le monde se bat pour l'écologie, enfin tout le monde, non, je ne suis pas persuadé quand même, enfin il y a quand même pas mal de personnes qui se battent quand même pour l'écologie, on nous en parle même maintenant au niveau politique, on essaye de faire des choses sensées et soi-disant responsables, et vous nous dites que nous, en France, on jette combien ?
Plus de 10 200 tonnes chaque année.
10 200 tonnes de plastique par an en Méditerranée ?
Simplement en Méditerranée. Donc c'est une véritable horreur.
Mais c'est, non, ce n'est pas une horreur, c'est un scandale.
C'est un scandale, vous l'appelez comme vous voulez, mais bon voilà, ça a été publié ce matin dans un rapport du WWF, donc c'est vraiment quelque chose qui est terrifiant.
Mais alors comment sont déversés ? Alors je coupe parce que c'est un sujet qui m'interpelle quand même, comment fait-on justement pour déverser autant de plastique dans les Méditerranées ? Qu'est-ce qui fait ? C'est donc les industries, c'est quoi ?
Alors, c'est 9% à peu près de ces déchets plastiques sont issus de la pêche, des activités maritimes, croisières, etc.
Les croisières font beaucoup, beaucoup de mal, là, les croisières, hein, lorsque, vous savez, ces gros bateaux à 10 ou 12 étages, là, c'est monstrueux. C'est une catastrophe. On a l'impression que c'est un HLM qui se balade sur la flotte. Moi, je trouve ça lamentable. Et je sais qu'ils déversent énormément de que ce soit les poubelles, déjà, mais ils déversent plein de choses. Mais c'est incroyable.
C'est une nuisance sonore.
Ah oui, non, c'est impressionnant.
Mais pas
et la pollution. Alors, nous, on va nous dire qu'il ne faut plus rouler avec notre 4L de 1965, ne serait-ce que pour se faire plaisir. Et là, des tonnes et des tonnes de fuel sont dépensées pour que les gens... je vais peut-être le dire quand même, s'emmerdent même un peu sur le bateau.
C'est du fuel qui émet énormément de particules lourdes.
Bah oui, en plus.
Et une journaliste s'est amusée avec un appareil à mesurer les taux de pollution sur le pont supérieur d'un paquebot. C'est l'équivalent de la place de l'Étoile à Paris aux heures de pointe.
Ouais, c'est impressionnant.
Donc n'allez pas respirer l'air pur de la mer sur un paquebot, vous n'y arriverez pas.
D'accord. Bon, voilà. On repart sur le plastique, voilà, parce que ça m'intéresse et ça m'interpelle surtout. On revient sur le plastique. Vous m'avez dit, mais c'est des milliers de tonnes déversées toutes les années par la France, que ce soit donc pour les vacanciers, que ce soit les gros bateaux, que ce soit peut-être les industries aussi.
Les industries, bien sûr.
Les fermes à coque-colle aussi.
Et tout cela, en fait, est charrié par les fleuves. Pour la Méditerranée, l'essentiel de la pollution plastique arrive par le Rhône et se concentre dans les zones urbaines, bien sûr. Donc, delta du Rhône, ça, c'est la faute du Rhône. Mais aussi Marseille, les alentours de Marseille et les alentours de Nice. C'est là où on trouve le plus de pollution par les plastiques. En moyenne, chaque kilomètre de côte émet 4,1 kilos de plastique par an.
Impressionnant.
C'est vraiment très très impressionnant.
C'est impressionnant. Moi, je suis subjugué. Alors, la question, La question est la suivante, vous êtes sûr de vos chiffres ?
Ah, je suis sûr, oui, là, absolument. Ce sont des chiffres qui viennent d'être publiés, mais avec les références des études scientifiques qui les ont montrés. Donc là, je fais
entièrement confiance. Parce que pour moi, c'est l'horreur. Pour moi, c'est l'horreur ce que vous venez de m'annoncer là.
Je pense que on le savait déjà. Pour la Méditerranée, on a des chiffres très précis.
La Méditerranée, oui, ça, on s'en doutait, mais bon.
Au niveau mondial, on sait qu'on déverse à peu près aujourd'hui 9 millions de tonnes de plastique par an. Ces plastiques, durant leur première année, 66% flottent en surface et créent ce qu'on appelle le septième continent. Mais ensuite, ils ne se... Comment dire,
ils dissout pas.
Ils ne se dissolvent pas.
Bah oui, bien sûr.
Il faut 400 ans pour qu'un plastique se dégrade en mer. Donc aucun des plastiques que l'homme a créé ne s'est à ce jour dégradé en mer. Par contre, il se fragmente. Ils s'entrechoquent. Donc une partie va se retrouver le long des plages, une partie va couler directement. Et une partie va rester s'entrechoquant jusqu'à devenir des nanoplastiques, des microplastiques d'abord, c'est-à-dire des déchets entre 0,5 et 1 mm de diamètre, qui ressemblent beaucoup à des proies pour les poissons, qui les ingèrent. Bien sûr, ça va bloquer leur système digestif.
Ah, bah bien sûr. Ouais.
Et les tuer. Alors, poissons, mais aussi cétacés.
Oui, bah, les tortues en plus.
Énormément de tortues, mais aussi de dauphins, de cachalots, de baleines échouées. Et à l'autopsie, on se rend compte que leur ventre est plein de plastique. Et ensuite, en continuant à se fragmenter, ça devient des nanoplastiques, des très petites particules qui vont jusqu'à infecter le zooplancton, ce qui est vraiment la base de la chaîne alimentaire marine. Et après, ça va se stocker dans les chairs de toute la chaîne alimentaire marine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous mangez du poisson, il y a des grandes chances pour que vous mangiez malgré tout, vous aussi, des nanoplastiques.
Bon, quelque part, c'est pas dérangeant à partir du moment où c'est nous qui avons mis le plastique dans l'eau. Hein.
Oui, enfin, on est responsable.
On est quand même responsable. On est tous responsables.
Oui, c'est sûr qu'on est tous, on a tous quelque chose à faire.
Bah, forcément. Ne serait-ce que lorsqu'on se balade sur notre magnifique lac d'Annecy, enfin au bord du lac d'Annecy, et qu'on voit, on voit quelque chose, et on le prend, on le met dans une poubelle, on essaye de faire quelque chose. L'écologie commence là, non ?
Oui, bien sûr.
Commence par soi-même, et puis c'est aussi une question d'éducation, peut-être.
C'est une prise de conscience. Pour moi, ma prise de conscience s'est faite bien avant que je sois un marin. À l'époque, j'étais alpiniste, j'ai fait du ski de couloir. Et notamment, j'ai descendu des couloirs comme le couloir nord du Coup de Sabre, le couloir nord du Collège du Pelvoux, le couloir du Vélas, nord du Vélas. Aujourd'hui, ce sont devenus des falaises de pierre.
Des poubelles ?
Non, des falaises de pierre. Le glacier a complètement disparu.
Ouais, c'est
et
impressionnant,
personne ne pourrait imaginer qu'un skieur ait skié un jour dans ces cailloux.
Ouais, c'est impressionnant.
Donc là, les gens qui habitent à proximité de glaciers, ceux qui sont à Chamonix et qui voient l'allure à laquelle font la mer de glace, 11 mètres d'épaisseur de perdu en 2017, savent vraiment ce qu'est le réchauffement climatique. Pour ceux qui sont à Paris dans des bureaux, c'est un peu plus compliqué. Mais nous, ici, en Haute-Savoie, on a des repères très nets pour voir ce que c'est. Et ça va en s'accélérant.
Bon.
Mais il n'y a pas suffisamment de personnes quand même suffisamment conscientes. Je pense qu'il y a un rôle pédagogique très, très, très important.
Mais enfin, attendez. Je vous coupe quand même. Mais aux dernières élections européennes, on a quand même vu que les écolos avaient fait quand même 12% des voix.
Oui, bah c'est sûr. Les gens commencent à se manifester, mais ce n'est pas que dans, effectivement, dans
Oui, mais ça, c'est
l'élection.
L'écolo politique. Hein,
oui,
donc,
c'est exactement
c'est pas
ça, parce qu'en fait, ils agissent à court terme, alors qu'il faut...
Non, puis ça fait bien, surtout.
Pardon ?
Ça fait bien aussi de dire « je suis écolo ».
Oui, c'est sûr. C'est la tendance, il vaudrait mieux, effectivement, être dans ce sens-là. Mais,
parce que l'écologie,
cas,
pour
a...
moi, ce n'est pas ça. Hein, je vous coupe, mais je suis un peu en colère, là, quand même. pour moi, ce n'est pas ça, l'écologie. Hein. L'écologie, d'abord, c'est une question d'éducation, à savoir que lorsqu'il y a un papier qui est dans la route, comme je le disais tout à l'heure, sur la route, on prend, on le jette, on éduque les enfants. Et je crois que nous, notre génération, enfin en tout cas moi la mienne c'est cuit, mais en tout cas toute la génération des enfants de 5, 6, 7, 8, 10 ans, ils ont quand même pris conscience. Je pense qu'ils doivent prendre conscience que ben, plus tard on va peut-être leur laisser un héritage qui est complètement...
C'est pour ça qu'on a un vrai devoir aujourd'hui, notre génération et toutes celles qui suivent, de prendre conscience et d'agir, parce que c'est notre responsabilité. Même si au niveau politique il n'y a rien qui se déclenche parce que c'est des mandats courts ou c'est difficile, enfin, c'est fait plus pour l'électorat que pour satisfaire l'écologie, que du coup, bah, c'est à chacun vraiment de s'investir. d'investir et de prendre conscience que c'est notre responsabilité, c'est notre pouvoir. On a vraiment une responsabilité par rapport à notre humanité. Et...
On va détendre un peu l'atmosphère parce qu'on aurait tellement de choses à dire. Et puis c'est vrai que la pression est en train de monter parce que je crois que lorsqu'on fait ce genre d'émission, on prend conscience et que l'on parle de tout ce qui se passe. Et je pense qu'on n'a encore pas tout appris parce que là, ça fait que, qu'est-ce qu'on dit, 13, 14 minutes que l'on est ensemble. On va calmer un peu tout ça. On va mettre un petit peu de baume au cœur. Laurent Voulzy, ça va nous faire du bien. Voilà. À tout de suite.
Léger, beau lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de salut.
Bien, en tout cas, Laurent Voulzy, ça fait du bien. Ça met un petit peu de soleil dans cette émission sérieuse où on espère en tout cas vous faire découvrir ou redécouvrir en tout cas ce qui est en train de devenir notre planète qui sera certainement terne dans les années futures si on ne bouge pas maintenant. Si on revenait un petit peu, Philippe, justement sur cette expédition... du tour des deux Amériques. Donc on a parlé bien entendu de la biodiversité marine, ça c'est une chose, mais il n'y a pas que ça en plus. Il y a des interventions pédagogiques, je crois.
Oui,
absolument. Et on rappelle que vous ne le faites pas en solitaire. On est bien d'accord.
Non, on est nombreux, on vous disait 88 plus encore une quarantaine de personnes qui resteront à terre dans l'association. Le but, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens de ces nécessités. On parlait de la biodiversité marine. Elle nourrit aujourd'hui directement 1 milliard d'hommes sur la planète. Lorsque ce milliard d'hommes est réduit à la famine, comme partout ouais. dans le monde où c'est
que
le cas,
va-t-il se passer ?
On voit apparaître justement ce que le FAO appelle des zones de violence et de déstabilisation politique. Ça a été le cas en Somalie, mais c'est le cas aujourd'hui au Venezuela, par exemple, avec l'apparition d'une zone de piraterie qui est en train de prendre toute la partie nord de l'Amérique du Sud. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Si on ne lutte pas pour protéger cette biodiversité marine, on va avoir des problèmes de famine et de violence. En dehors de ça, on va voir les problèmes du climat. Ça, les problèmes du climat, la hausse des températures va jouer de plusieurs façons sur notre vie au quotidien. La première chose, c'est la hausse du niveau des eaux. Elle est liée à 60% à la fonte des glaces du Groenland et des Inlandsis. Il y a 40% simplement à la dilatation des océans sous l'effet du réchauffement. On s'attend d'ici la fin du siècle à avoir entre 1 mètre et 2,40 mètres de hausse du niveau des eaux.
C'est-à-dire que Nice sera sous l'eau ?
Oui, c'est-à-dire que le port de Nice sera sous l'eau. Le vieux port de Marseille, il y a aujourd'hui moins de 50 cm entre le niveau de l'eau et le niveau des quais. Donc ça veut dire que d'ici 30 ans au maximum, le vieux port à Marseille sera sous l'eau si la mairie ne fait rien. On a construit très récemment, en 2013, le MUCEM, un très grand musée des civilisations de la Méditerranée, 2013. Les quais aux alentours du MUCEM sont aujourd'hui à 80 cm au-dessus du niveau de l'eau. Ce qui veut dire qu'en 2100, dans le meilleur des cas, les visiteurs auront de l'eau 20 cm au-dessus des semelles de leurs chaussures. C'est construit en 2013. Ça montre le manque aujourd'hui de prise en compte du réchauffement climatique.
Et vous dites que c'est aussi du fait de la fonte des glaciers.
Absolument, ça c'est la fonte des glaciers.
Je vous coupe, oui. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des scientifiques, qui disent le contraire ?
Qu'il n'y aurait pas de fonte de glaciers ?
Oui.
Ah, ils sont de plus en plus rares. Là,
oui.
Vous dire que,
on voit quand même hein, que
j'aime bien lancer le débat, ça me plaît bien. Ça me plaît
les
bien,
glaciers
ça.
S'effondrent, on les voit. C'est...
Des noms. aujourd'hui, il y a un consensus quasiment général sur le réchauffement climatique. Alors, la fonte des.
Je vous coupe encore. Alors, j'en reviens aux scientifiques. Ils disent que c'est simplement cyclique et que de toute façon, ce que l'on vit actuellement, c'est ce que les gens ont peut-être vécu il y a 100 ans, 150 ans en arrière.
Alors, bien plus que 150.
Oui. À nouveau, il y a eu effectivement une période au Moyen-Âge, une période mini-période glaciaire. Ça, c'était lié à des éruptions volcaniques qui ont obscurci un petit peu l'atmosphère et freiné l'arrivée de l'énergie solaire. On a aussi un cycle qui est lié au Soleil. La Terre ne tourne pas rond, si on peut dire, autour du Soleil, mais elle décrit une ellipse. Donc il y a des moments où on se rapproche du Soleil, des moments où on s'en éloigne. Et le Soleil lui-même a des cycles d'activité plus ou moins intenses en période de forte activité d'éruption solaire. On reçoit plus d'énergie. Mais ça représente 10%, ça explique 10% du réchauffement actuel. 90% du réchauffement actuel...
Donc si j'ai bien compris, se sont basés sur les 10%.
Absolument. Mais on a 90% qui sont liés, et ça c'est indiscutable, à l'activité humaine depuis la révolution industrielle. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a eu effectivement des cycles glaciaires, des cycles de chaleur sur Terre, mais aucun ne s'est développé aussi rapidement que c'est le cas aujourd'hui.
C'est quoi ? C'est dû aux industries ?
Oui, absolument. C'est
uniquement les industries ?
Uniquement les industries. Enfin, les industries et nos activités de consommation.
Et nos activités.
Exactement.
Le fait que l'on soit de plus en plus nombreux sur Terre aussi.
Oui. Mais à consommer aussi de
la façon consommation.
Considérée. On pille nos ressources. En 200 ans, on a pillé les ressources de la Terre.
Pour vous donner une idée, on consomme chaque année en énergie fossile ce que la Terre a mis 1 million d'années à créer. Voilà, ça donne une idée. Donc, énergies fossiles, bien sûr, sont essentiellement des hydrocarbures. Donc, ces hydrocarbures sont créés par la dégradation. L'océan est un puits de carbone, etc. On ne va pas développer trop là-dessus. Mais retenez ces chiffres. 1 million d'années pour créer ce que nous, on consomme en une année.
Ah, c'est un truc de fou, ça.
C'est un truc de fou. On est beaucoup trop nombreux, on consomme beaucoup trop, et les gens n'ont pas pris conscience que la Terre est un écosystème fini, et on ne peut pas avoir une croissance infinie.
Ah, ça, c'est sûr, c'est même fini. Certain. Bah oui, absolument. Voilà. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Juste une question, je vous coupe, ensuite on reviendra sur cette expédition. Et puis, ce qu'il faudra surtout faire, hein, c'est de nous tenir au courant, justement, des évolutions, de ce que vous faites, des endroits où vous vous trouvez, nous faites passer des messages comme ça, nous, on pourra continuer sur cette voie. C'est-à-dire parler un petit peu de ce qui va peut-être se passer dans les années futures, en tout cas sur notre belle planète. Je dis bien belle planète pour l'instant. Qu'est-ce que vous pensez de la voiture électrique ?
C'est intéressant à la condition que cette électricité soit produite d'une façon écologique.
Oui.
En France, on produit une bonne partie de notre électricité avec du nucléaire.
Tout à fait.
Le nucléaire a un énorme avantage au niveau du climat. Il ne produit pas d'émissions de gaz à effet de serre.
Donc vous êtes pour le nucléaire.
Je suis à fond pour le nucléaire. Ça n'est pas quelque chose d'idéal. Le problème des stockages des déchets nucléaires va se poser. Et ils réapparaîtront un jour ou l'autre.
C'est mieux que le chips, en tout cas.
Voilà. Mais par contre, c'est un problème sur le long terme. Alors là, on a un problème sur le très très court terme, qui est un problème de gaz à effet de serre. Et si on produit, comme c'est le cas en Allemagne, l'électricité par du charbon...
Oui, ça c'est une bêtise.
Là, par contre, ça n'a aucun sens.
Ça, c'est sûr.
Sur le court terme, ça n'a aucun sens.
Virginie, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
De
la voiture électrique.
Ce que j'en pense.
Ouais.
C'est intéressant de penser à ces technologies un peu plus vertes, et on y viendra tout à l'heure avec le salon justement Clean Tech, la raison pour laquelle Philippe sera là lors de ce salon.
22 juin.
Donc voilà, on en reparlera effectivement. Mais tant qu'effectivement ça fait partie des énergies vertes, bah oui, il faut aller dans ce sens-là. Je pense qu'il y a même encore d'autres façons de faire, mais on a les moyens techniques. Après, il faut pouvoir aider ceux qui ont de la technique.
Alors qu'est-ce que vous pensez justement du gouvernement qui annonce qu'à partir de 2040, les voitures essence et le diesel ne pourront plus rouler ? C'est l'utopie, ça.
J'attends de voir. Non, on a aujourd'hui, c'est ce que disait Nicolas Hulot à la fin du mois d'avril à 20h30 sur Antenne 2, on a aujourd'hui tous les moyens techniques
pour le faire.
Et pour le faire, le problème c'est la volonté. Le problème c'est la volonté. Il y a une chose très simple, on consomme énormément d'énergie pour chauffer nos maisons. Il y a des gens qui chauffent à 24 degrés en hiver chez eux pour être en t-shirt. Ça n'a pas de sens. Nos ancêtres à 18
degrés. Alors, avant de changer les mentalités des gens qui se chauffent à 24 degrés, ça va être compliqué.
Un pull, mettez un pull quand vous avez
froid.
Oui,
c'est sûr.
Mais mettez un deuxième pull.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Ça, c'est une première chose.
Ça, c'est aussi une question d'éducation.
Absolument. Une deuxième chose, c'est prenez des transports en commun. Un jour par an à Paris, on fait un Paris sans véhicule individuel. On devrait faire ça durant toute l'année. On a des transports en commun, du métro, des trams, etc. Développons cela, rendons gratuits ces transports en commun dans les grandes agglomérations. Je vous rappelle qu'à Genève, il y a quelques années, il y avait eu une votation destinée à interdire dans le centre de Genève, destiné à rendre gratuits les transports en commun dans le centre de Genève, et cette votation a été rejetée par les Genevois. En plus de ça, c'était l'initiative du PS qui a dit aux gens vous allez avoir une hausse des impôts si vous rendez gratuits les transports en commun. Bon, on ne va pas revenir sur ce truc-là. Mais donc, c'est faisable.
Donc si j'ai bien compris, que ce soit l'écologie, que ce soit enfin de toute la discussion que l'on est en train de débattre aujourd'hui, à la base, c'est qu'une question d'argent.
Ça n'est qu'une question d'argent.
Et puis d'énergie de l'individu, que l'individu ait envie de se responsabiliser et d'agir.
C'est parce ce que je disais tout à l'heure, Virginie. C'est les enfants maintenant, oui. C'est les enfants, c'est la génération.
Mais nous aussi, parce qu'on informe.
Ah, c'est compliqué
et puis,
quand même.
C'est ce que fait aussi Philippe avec ce Tour des Deux Amériques, avec de la pédagogie, informer les gens, prise de conscience, et dire qu'on est vraiment acteurs. On a tous un rôle à jouer, c'est urgent.
C'est vrai, je suis bien d'accord avec vous. On continue en musique. Paolo Conte, c'est pour vous ça, hein, Philippe. Hein.
Merci.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio. Pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful. Lemon few chips, chips. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, James, James, James. It's wonderful, dream of you, James, James. Da ti do di do chi bum chi bum bum. Da ti do di do chi bum chi bum bum. Da ti do.
C'est Monsieur Paolo Conte. C'est ça, hein,
c'est
monsieur. Ouais, absolument. Voilà, c'est aussi encore un sacré monsieur. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir en concert, mais sur scène, c'est quelque chose. Hein.
À Lyon, à Fourvière, il y a quelques années, tout à fait.
C'est vrai? Oui. Extraordinaire. Et à Fourvière en plus.
Absolument.
Ah, cool, cool, cool. Bien, alors, on est en train de parler d'écologie, mais pas que. On est en train de parler justement de cette expédition du Tour des Deux Amériques qui va partir eh bien, très, très prochainement. On en reparle parce que là, je sais que vous partez pour 5 ans. Dites-moi, d'ici 5 ans, avec tout ce qui est en train de se tramer dans le monde, il y a certainement des métiers qui vont être obligés de changer. Il va y avoir un tas d'évolutions justement au niveau des métiers.
Alors d'ici 5 ans, je ne sais pas. Par contre, dans le futur, sûrement. Le GIEC, par exemple, estime qu'à l'horizon 2075, il n'y aura plus suffisamment d'eau dans le Bordelais pour faire pousser de la vigne et qu'on va être obligé de remplacer, donc d'ici 2075, ce qui fait la fierté de nos
fêtes. Là, je coupe parce que là, vous êtes en train de nous foutre les jetons. Là, parce que si vous dites que dans quelques années, on ne pourra plus boire un bon vin de Bordeaux...
Absolument. Le bon vin de Bordeaux, et c'est la même chose pour les champagnes d'ailleurs, il sera issu du sud de l'Angleterre. Vous avez déjà des propriétaires viticoles qui vont négocier le rachat de terres, qui ont à peu près les mêmes structures en termes géologiques, et qui par contre sont encore à des prix relativement bas.
Bon,
il y a eu des époques, on parlait du Moyen-Âge, de la petite ère glaciaire. Si vous allez à la cathédrale d'Amiens, vous voyez sur des bas-reliefs sculptés des vignerons à l'œuvre. Donc il y a eu des périodes dans lesquelles dans le nord on faisait pousser des vignes. Ça c'est ce que je vous disais, c'est lié à des problèmes d'éruption volcanique. Là ça va être une obligation, donc faut faire face à ce réchauffement climatique.
D'accord.
Vous allez avoir des métiers, je pense par exemple éleveur de taureaux en Camargue ou rizière en Camargue. Ça va être très difficile avec une hausse du niveau des eaux. La Camargue va se retrouver sous l'eau, donc aujourd'hui, les salins du Midi, des choses de ce type-là, voilà, il faudra qu'elles se délocalisent plus vers l'intérieur des terres. Il y a des métiers, par exemple, qui vont être impactés par la disparition des glaciers. 80% des glaciers de la planète auront disparu durant 2100. Là, je vous disais, il y a déjà des glaciers qui disparaissent, hein, ceux que je vous ai cités. Le métier, par exemple, de moniteur de ski, dans 50 ans, ça deviendra quelque chose
Si je peux me permettre, on rappelle, puisque vous avez aussi habité Chamonix, vous êtes un alpiniste, et donc vous avez fait énormément de ski. Souvenez-vous, il y a 30 ans, 40 ans, on pouvait aller skier dans des toutes petites stations, enfin des petites stations, c'est pas ce que je voulais dire, des stations très basses en altitude, en moyenne montagne, et puis maintenant, et malheureusement, ça devient très compliqué, et en plus de ça, il faut que justement ils se diversifient au niveau du boulot, puisqu'il faut qu'ils arrivent à trouver des activités hors ski.
Tout à fait. Donc là, ça va être une évolution complète au niveau des gérants des stations de moyenne montagne. Il va falloir qu'ils fassent face à une disparition des activités traditionnelles hivernales, ski, luge, etc. Donc ça, c'est une chose importante. Vous avez des métiers comme ostréiculteur, par exemple, qui vont aussi disparaître. Le 30...
C'est pas très gai quand même.
Oui, hein, ça fait un peu alarmant, mais c'est parce qu'il faut vraiment prendre conscience.
Ça fait peur quand même. Hein.
Mais il faut prendre conscience.
L'année dernière, début août, l'étang de Thau en Camargue est passé à 30 degrés. À 30 degrés, vous n'avez plus suffisamment d'oxygène dans l'eau pour permettre la vie des mollusques bivalves, des huîtres et des moules. Et en l'espace de 4-5 jours, ils ont perdu la totalité de leurs huîtres et la moitié de leurs moules, c'est à peu près la moitié de leur chiffre d'affaires. Et j'en ai parlé en janvier avec des gens au ministère de la Transition écologique et solidaire qui me disaient « Oui, ça c'était en Camargue, mais dans quelques années, ça va toucher le bassin d'Arcachon, puis ensuite Marais-Oléron. » Et déjà aujourd'hui, on voit des ostréiculteurs qui se délocalisent vers la mer d'Irlande, où là-bas, les huîtres trouvent des eaux à la fois plus froides et donc plus riches à la fois en nutriments et surtout en oxygène. Donc ça, c'est des métiers aussi qui vont changer complètement. Bien sûr, tout ce qui a trait aux énergies renouvelables, à l'environnement, va se développer. Il y a beaucoup de métiers qui vont apparaître, d'autres qui vont disparaître. Si on y fait attention, si on est capable d'anticiper, ça ne sera pas trop grave. Si par contre, on ne s'y prépare pas, là, ça risque d'être vraiment un problème, hein, comme au niveau du MUCEM, par exemple. Ce musée inauguré en 2013, avec des normes qui ne tiennent absolument pas compte du réchauffement climatique.
Incroyable. Mmh. On apprend des choses aujourd'hui, c'est impressionnant quand même. Virginie, pourquoi justement cette sensibilité par rapport à l'écologie, puisque vous aussi vous allez partir pour ce périple?
Parce que probablement cette énergie, cette conscience aussi de cette nature, de cette planète qui est merveilleuse, qui a un bon système d'équilibre et qu'on est en train de tout déséquilibrer. Donc notre responsabilité, et c'est pour ça que je participe à cette association pour pouvoir aider les gens à mieux prendre conscience de ce qui se joue. Parce qu'il y a les médias, mais les médias, des fois, ils ne font passer les messages qu'ils veulent bien. Et puis quelquefois, c'est très influencé politiquement, avec beaucoup de contradictions, et il faut vraiment aller faire une recherche personnelle, il faut aller faire ses enquêtes, et chacun est responsable du devenir de notre planète. C'est pas banal, c'est pas anodin. Donc voilà, c'est pour ça que je m'investis.
On écoute Django Reinhardt, Nuage.
Ça va
alléger un petit peu tout ça. Et puis on reviendra justement, puisque l'ONU annonce un peu plus de 250 millions de migrants qui devraient arriver, eh bien, peut-être en Europe ou dans d'autres pays, en tout cas. Là, où justement, hors antenne, vous étiez en train de nous dire que dans quelques années, eh bien, certainement des pays comme l'Afrique du Nord, dans tous ces pays-là, il ferait tellement chaud que ce serait d'abord invivable et que ce serait même à la limite, justement, du supportable pour l'être humain. C'est ça ?
Tout à fait.
Parfait. On écoute Django Reinhardt et on revient.
Thank you.
Django Reinhardt, Nuage. C'était fort sympathique, ça. Ça date de 1938. Ça n'a pas pris une ride, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. On revient un peu sur les migrants. Hein. 250 millions de personnes qui vont arriver, que ce soit en Europe, que ce soit beaucoup au Québec, hein, puisqu'on rappelle qu'il y a énormément de places aussi au Québec. C'est 4 fois la France avec 8 millions d'habitants. Je parle du Québec, hein, je ne parle pas du Canada. Hein. Donc, est-ce que je pense que de toute façon, il va falloir faire quelque chose, parce que sans quoi, ça va être dramatique pour les uns comme pour les autres. Donc là, je crois que politiquement, ils ont intérêt justement à commencer à préparer les Européens à ce que bientôt les migrants vont arriver chez nous, et de toute façon, on n'aura pas le choix.
Oui, l'ONU s'attend à 250 millions de migrants climatiques à l'horizon 2050, c'est-à-dire après-demain. Ceux qui sont en Arizona ou en Texas vont aller au Canada, au Québec par exemple.
Ah oui, bien sûr.
Voilà. Déjà aujourd'hui, la hausse du niveau des eaux liée au réchauffement climatique transforme le Bangladesh en un vaste marécage, avec fuite des populations vers le nord, densification à la frontière de l'Inde, apparition de zones de criminalité, de violence, d'épidémies, etc. Donc à l'horizon 2050, tous ces gens-là vont aller migrer encore plus au nord en Asie. Mais tous ceux qui sont en Afrique, je pense notamment en Afrique subsaharienne, qui est en train de se transformer en enfer avec une aridité croissante. Aujourd'hui, dans le nord du Kenya, vous avez des tribus qui se battent à la mitraillette chaque semaine pour la possession des maigres points d'eau qui restent encore disponibles. Tous ces gens-là vont migrer d'abord vers les pays du Maghreb. Le Maroc aujourd'hui est en train de fermer ses frontières, d'ailleurs,
ouais,
pour
empêcher
ces migrations. Mais lorsque le Maghreb lui-même sera devenu un enfer, je vous rappelle que l'année dernière, au mois d'août, en Algérie, on a enregistré des températures de 50 degrés à l'ombre. Et on est qu'au début du réchauffement climatique. Eh bien, tous ces gens-là vont migrer vers l'Europe. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais on peut estimer à 70-80 millions les migrants qui seront condamnés à venir en Europe. Ils auront le dos au mur et la mort derrière eux. Donc il faut effectivement s'apprêter à faire quelque chose.
Ça va être compliqué. Hein.
Les trois solutions, c'est une, faire un vaste génocide et les flinguer sur les plages. Deux, créer des camps de concentration si la Deuxième Guerre mondiale. Trois, leur donner un accueil décent. Il n'y en a pas d'autre. Moi, vous le devinez, je suis pour leur donner un accueil décent. Mais ça, il faut s'y mettre dès aujourd'hui. Quand on voit ce qui se passe à Calais, on n'en prend pas franchement le chemin. Or, il y a une possibilité d'accueillir ces gens. Je vous rappelle que la France a accueilli 1 million d'Espagnols en 1936. L'Allemagne vient d'accueillir plus d'un million de migrants. Ils en sont à leur plus bas taux de chômage depuis 30 ans, depuis la réunification de l'Allemagne, 4,9% de taux de chômage. Le sociologue François Jomène dit « La solution, c'est de tout ouvrir ». Tout ouvrir parce que d'une part, ceux qui sont venus pourront éventuellement repartir, passer des vacances, voir leur famille rester sur place. D'autre part, on pourra contrôler ces gens si on n'en fait pas des fuyards et des sans-papiers. Et ce sont aussi une force économique, une force de travail. Ils vont créer des emplois, ils vont consommer, ils vont faire tourner notre économie, faire tourner notre bâtiment, etc. C'est ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut par contre, c'est que dès à présent, on donne des migrants non pas une mauvaise image, mais une bonne image. Il faut savoir qu'une enquête très documentée montée par Lepers et Kayat a montré qu'il n'y a aucun lien entre taux d'immigrés et criminalité. Les villes dans lesquelles il y a le plus fort taux de criminalité sont souvent celles avec le moins de migrants, et celles, à l'inverse, avec le plus fort taux de migrants, sont aussi parfois celles avec le plus bas taux de criminalité. Il n'y a aucun lien entre les deux. Donc il faut donner aux gens une bonne image des migrants, leur dire ce sont des gens qui sont en souffrance, ça sera peut-être vous demain, aujourd'hui, préparez-vous à les accueillir, mais à les accueillir dignement.
Bien, et moi je vous dis que c'est pas gagné tout ça.
C'est sûr, hein, il faut anticiper.
Ouais, il va falloir anticiper. Si on revient justement sur... parce que le réchauffement de la planète, bon, je pense que tout le monde en a pris conscience maintenant. Quoique, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement ? Au niveau des industries, il y a un travail qui est énorme et apparemment ça ne les intéresse pas parce qu'il y a toujours le profit qui est derrière. Ça, c'est sûr. Pour notre part, qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, maintenant, peut-être rouler en voiture avec de l'essence plutôt qu'avec du diesel. Quoi qu'on nous a vendu le diesel il y a quelques années pour nous dire que maintenant, c'est l'essence qui pollue le moins. J'en suis pas convaincu du tout. Je connais bien l'automobile. On nous dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Pour moi, personnellement, en tout cas, je vois pas grand-chose qui bouge.
Non, vous avez raison. Ça, c'est un petit peu la faute des gouvernements. Les gouvernements ont une optique à très court terme, 4 ans, 5 ans, malheureusement, la durée d'un mandat électoral, alors que les mesures concernant l'environnement sont des mesures sur le long terme. Et le temps des politiques n'est pas le temps, malheureusement, de l'environnement. Donc, mais il faut faire quelque chose, ça c'est sûr.
Il faut faire quelque chose. Par exemple, le ministre que l'on a eu il y a quelque temps, justement, je trouve qu'il faisait un travail remarquable.
Nicolas Hulot ?
Bah, bien sûr.
Oui, absolument.
Absolument.
Il a jugé à un moment, d'ailleurs, qu'il n'avait pas suffisamment de moyens pour mener son action.
C'est-à-dire qu'on ne lui a surtout pas donné de moyens.
Et fin avril, il disait au micro de 20h30 sur l'antenne 2, nous avons aujourd'hui tous les outils nécessaires, mais il manque la volonté.
Vous l'avez rencontré ?
Non, ça fait partie des personnes que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer. Il y en a beaucoup, malheureusement. Voilà. Mais je serais très, très intéressé par le rencontrer. Il a fait un travail qui est remarquable, insuffisant. Aujourd'hui, comme vous le faisiez remarquer, il y a des choses à faire au niveau individuel.
Absolument, déjà.
Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau gouvernemental, notamment mettre en place des normes. Et qui soient des normes autres que des taxes carbone ou des malus, des choses de ce type-là. Les taxes carbone, par exemple, font rentrer de l'argent dans les caisses des États et de l'Union européenne, ça c'est très bien, mais par contre n'ont pas d'efficacité. Elles renchérissent les coûts des entreprises qui les intègrent dans leur budget, mais tous ceux qui ont les moyens ou l'obligation de consommer, derrière, contribue à payer ces taxes carbone, c'est vous, c'est moi, et rien ne change. Les entreprises ne restreignent pas leur consommation et leurs émissions de gaz à effet de serre du fait des taxes carbone. Simplement, leurs coûts se renchérissent, c'est tout.
Donc, pour l'instant, ce n'est pas leur problème.
Absolument.
D'accord.
Ce n'est pas leur problème.
Okay.
Ça ne deviendra leur problème que lorsque les gouvernements auront...
Ou au moment des élections, là, ça peut être un problème.
Voilà. Les gouvernements n'agiront que sous la pression du grand public. Alors d'où l'intérêt des marches, d'où l'intérêt des démarches comme celle de la jeune Suédoise Greta Thunberg. Greta Thunberg a dit quelque chose de très fort, elle a dit que les gouvernements actuels sont en train d'assassiner les jeunes générations. Il y a déjà aujourd'hui des ONG qui déposent des plaintes contre des gouvernements. 4 ONG ont déposé une plainte contre le gouvernement français pour inaction climatique. 7 familles ont déposé des plaintes contre le gouvernement des Pays-Bas il y a quelques années. Voilà, on va aller vers peut-être une notion de crime contre l'humanité. Ça ne fait pas encore partie des spécificités du crime contre l'humanité, mais peut-être est-ce que l'espèce de vaste génocide humain vers lequel on va, du fait du réchauffement climatique, entraînera l'apparition de nouveaux crimes contre l'humanité.
Parfait. Je voulais que l'on écoute une chanson, mais je crois qu'on n'aura vraiment pas le temps, parce qu'on a tellement abordé des sujets différents. Une des dernières questions que je vais vous poser, vous partez avec quel bateau ?
Alors, le bateau n'a pas encore été trouvé. C'est un bateau qui fera entre 22 et 24 mètres. Gréement caoutchouc goélette, coque acier, timonerie intérieure très protégée, minimum 7 cabines. Nous sommes très demandeurs de personnes qui pourraient nous céder ce type de bateau à petit prix. Voilà. À défaut, on a déjà trouvé un bateau de remplacement trop petit, qui sera peut-être le premier bateau de l'expédition.
Parce qu'on rappelle que vous partez avec 65 marins. Il y aura 23 plongeurs, chargés de communication, bien entendu, un officier de sécurité à terre. Enfin, il y a du monde autour de vous.
Il y a une très grosse logistique. On ne sera bien entendu pas tous à bord, c'est clair, ce ne sera pas un paquebot. Mais on sera en moyenne 6 marins et plongeurs à bord, plus 2 scientifiques et très souvent un artiste.
Comment vous financez tout ça d'ailleurs ?
Alors, en partie sur les cassettes personnelles des membres de l'expédition et en partie par du sponsoring ou du mécénat. On est là aussi très demandeur. Donc, on a la possibilité, en tant qu'association d'intérêt général, de permettre la défiscalisation des 2/3 des dons qu'on nous fait. Donc, n'hésitez pas, contactez-moi. Vous êtes les bienvenus si vous voulez faire un geste pour la planète.
Alors, déjà, comment on fait pour vous contacter ?
06 81 34 65 31.
Un site ?
Un site, bien sûr, www.amérique au pluriel, voilier au singulier, tour-des-deux-amériques-expédition.org. Si vous oubliez, vous tapez sur Google Tour des Deux Amériques, expédition Tour des Deux Amériques, et vous tombez sur notre site.
Alors, pourquoi ce choix, justement, je vous ai posé la question au début de l'émission, pourquoi ce choix, justement, des Deux Amériques ?
On trouve là-bas les pays les plus polluants, à commencer par les États-Unis. On trouve aussi à proximité le pôle Sud et le pôle Nord, l'Antarctique et l'Arctique, qui sont les deux grands régulateurs du climat. Et on trouve aussi les gens qui ont le plus de moyens de lutter. À nouveau les États-Unis, dont je vous rappelle qu'ils se sont retirés du fonds vert, ce qui est vraiment une catastrophe en termes de moyens de lutte contre le réchauffement climatique. Donc ce sont des gens à sensibiliser vraiment de toute urgence.
Parfait. Et le départ est prévu quand ?
Le plus tôt possible, on l'espère avant le 15 décembre.
On rappelle que vous partez pour 5 ans. Hein.
Absolument, 5 ans de recherche et d'expédition.
Bon, et Virginie, vous allez partir 5 ans ?
Non, peut-être pas. Effectivement, je vais avoir un rôle à terre, de pouvoir informer les gens, continuer peut-être de relayer, de continuer de faire prendre conscience de l'importance de faire soi-même ces enquêtes. Et à ce propos, que ce soit au niveau mondial, mais que ce soit au niveau de sa propre ville ou de son pays, on peut effectivement... les consulter, avoir des consultations du public sur le site du gouvernement pour avoir droit à l'information de ce qui se passe localement comme nationalement. Et tout ça, ça nous permet de reprendre un peu les mains, la main sur ce qui se joue autour de nous, quoi, hein, plus se laisser faire et d'être responsable notre devenir et ceux des enfants.
Parfait. Les médias vous suivent ?
Oui, vous à commencer, voilà. Mais on passe aussi régulièrement sur France Bleu, on est passé il y a un mois sur France 3. Voilà. Donc au niveau des médias, ils sont tout à fait intéressés par l'expédition et on les tient régulièrement au courant. On travaille aussi beaucoup avec les collèges et les lycées.
Oui, parce que vous faites des conférences aussi.
Absolument, et des interventions devant des classes, des interventions pédagogiques pour présenter à la fois le réchauffement climatique et des points très particuliers comme l'effet de serre, par exemple. Il y a un aspect pédagogique devant les jeunes qu'on a déjà commencé en France.
Parfait. Alors, ok, ma dernière question. Quelle est justement la réaction des gens, comme moi d'ailleurs, à qui vous avez pu expliquer tout ce qui va se passer dans les années futures avec des chiffres bien concrets? Quelle est leur réaction? Comment ils pensent que cela va être possible? Ou est-ce qu'ils jouent déjà le jeu en disant « Bon, ça va à partir de demain, je fais attention à ce que je fais ».
Alors, c'est une réaction d'horreur. Les gens sont de plus en plus conscients aujourd'hui des problèmes du réchauffement climatique, mais très peu ont une conscience globale de l'ensemble réchauffement, c'est-à-dire problème de hausse du niveau des eaux, problème d'apparition de nouvelles maladies, problème de développement de nouveaux insectes, changement des métiers, etc. Quand on leur dresse un tableau complet, ils sont effarés de l'ampleur du phénomène et des problèmes qui vont se poser. Et je l'espère, à partir de là, ils vont se mettre à transformer leur mode de vie, leur mode d'action. Éviter, par exemple, de jeter des plastiques, éviter d'acheter des plastiques.
Mais ça,
c'est
déjà la base.
Et de surconsommer aussi. On n'imagine pas toutes ces mauvaises habitudes qui ont été prises, une espèce de confort. Mais quand on va renouveler son téléphone portable tous les ans, c'est une catastrophe pour notre planète aussi. Il y a beaucoup de choses comme ça. Individuellement, on a beaucoup aussi à faire. On doit agir individuellement.
Ah, je suis bien d'accord. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour saluer la société AFB. Ils sont sur Annecy. Ils font du reconditionnement d'ordinateurs qu'ils récupèrent dans les entreprises. Ils sont, je crois, maintenant 50 ou 60 employés à travailler dans cette boutique. Ils font un travail remarquable. Et eux, ils ont compris ça il y a quelques années, puisque c'est un concept qui vient d'Allemagne. Et ils ont plusieurs centres comme ça, répartis un peu sur toute la France. Et je tenais à le signaler parce qu'ils font un travail remarquable. Et voilà, c'est avant tout des amis maintenant.
Mm-hmm. Des gens qui agissent.
Oui, des gens qui agissent, voilà. Et donc, on peut aussi... en tout cas, les entreprises peuvent aussi, elles, mettre à contribution et bien peut-être justement un peu moins de gaspillage, un peu moins de trucs comme ça, en faisant ce que fait AFB, tout simplement.
Oui.
Ce qui s'appelle du recyclage, hein, tout simplement. Hein.
Tout à fait. Il faut développer le recyclage, alors le recyclage des plastiques, mais aussi, vous avez raison, des ordinateurs portables,
absolument, bien sûr.
Des téléphones portables. Ils consomment des terres rares, qui, comme leur nom l'indique, sont rares. Et là aussi, on a une planète qui est finie. Donc, tout ce qui est recyclage, reconditionnement est préférable à l'achat de matériel neuf ou à usage unique.
Merci Philippe. Pardon, si on veut vous contacter, un mail.
philippe.bensimon@ Amérique au pluriel, voilier au singulier, tiré du 6 expédition.org. À nouveau, c'est un petit peu long à mémoriser. Allez sur, taper sur Google Tour des Deux Amériques,
ce sera plus simple.
Expédition Tour des Deux Amériques. Vous tombez sur notre blog et là, vous avez mon mail en bas de la colonne de droite.
Et puis de rappeler que Philippe sera, voilà, il sera au Salon international des technologies vertes du 19 au 22 juin là, à Annecy, et que bah, s'il y a des gens qui sont intéressés pour partager, ouvrir les esprits, il y a moyen de rencontrer Philippe.
Ok, et vous nous donnez un petit coup de fil, 04 82 53 38 80, vous tapez 3, vous tombez directement sur mon portable, vous me dites, c'est une conférence qui m'intéresse, comment j'ai fait pour y aller, moi je vous donnerai toutes les informations. Merci en tout cas Philippe de nous avoir rejoint, d'avoir fait bon nombre de kilomètres depuis le Jura. Virginie, à très très bientôt avant de partir et de se préparer pour cette croisière.
Je pourrais faire le relais.
Et puis donc, tenez-nous au courant. J'aimerais bien que l'on en parle un peu plus régulièrement sur les ondes de Séquence FM. À très très bientôt.
Pour terminer,
Nougaro, pour se faire plaisir. Allez, à plus.
Armstrong, je ne suis pas noir. Je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Te fend la poire, on voit toutes tes dents. Moi je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, ça tient chaud. J'ai froid, oh moi, je suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge sang.